Décryptage, Marie Cazadebé.
L'avenir de Theresa May, à nouveau soumis à un vote. Le Parlement britannique va d'un instant à l'autre se prononcer sur une motion de censure contre la Première Ministre. Theresa May devrait s'en relever malgré un échec cuisant hier soir. Les mêmes parlementaires ont rejeté en bloc son accord de Brexit.
Je ne peux pas soutenir cet accord car ce n'est pas ce qu'on avait promis aux électeurs durant le référendum. Qui plus est, aucune des décisions importantes sur notre relation future n'ont été prises, si bien que l'incertitude va s'éterniser. Notre pays mérite mieux que ça.
À 10 semaines de la date butoir, le Royaume-Uni plonge un peu plus dans l'inconnu et la division. Que peut-il se passer maintenant? L'accord avec Bruxelles peut-il encore être négocié? Et est-ce que ça suffira? Londres doit-elle chercher à gagner du temps? Mais pour quoi faire? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Catherine Coron.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes enseignante, chercheur à Paris, spécialiste du Royaume-Uni. Et nous sommes aussi avec John Henley. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au quotidien The Guardian. Vous êtes correspondant Europe, basé à Paris. Et vous allez donc nous aider à comprendre ce qui se passe, si on peut comprendre quelque chose. Theresa May, après donc le rejet de son accord négocié avec l'Union Européenne, a 3 jours pour présenter un plan B. C'est ce à quoi la Chambre des communes l'oblige. Mais que peut-elle faire en 3 jours, Catherine Coron?
Eh bien, on peut imaginer qu'elle ait préparé en amont ce plan B et que, je dirais, comme elle l'a fait jusqu'à présent, elle n'ait pas dévoilé toutes ses cartes et que donc, je pense que ce qui a été annoncé par un des ministres en son nom, c'est qu'elle allait probablement chercher un consensus, quelque chose qui soit acceptable par l'Europe, parce que on commence à venir à un moment où l'Europe va finir par aussi trouver qu'il y a des limites. Et puis qu'il soit acceptable par les deux parties, c'est-à-dire les pros et les anti-Brexit, parce qu'il y en a quand même encore.
John Henley, on a l'impression quand même que sa marge de manœuvre est assez réduite. Cet accord, est-ce qu'il peut être modifié? La Commission européenne a affirmé à la mi-journée que les termes du Brexit n'étaient plus négociables. Où est la marge de manœuvre?
Ce qui peut être modifié, c'est la déclaration politique sur les relations dans l'avenir. C'est-à-dire que l'accord de sortie, en fait, il y a deux parties. La première partie, c'est l'accord de sortie proprement dit, là où on règle les questions des droits des citoyens européens en Grande-Bretagne et vice-versa, la somme que la Grande-Bretagne doit régler pour les engagements qu'elle a pris avant. La fameuse question de la frontière en Irlande, entre l'Irlande du Nord et la République.
Donc mais on va dire que c'est la question pratique.
Voilà, tout ça, la question pratique. Ouais. Et ça, c'est vrai que là, il y a très, très, très peu de marge de manœuvre. Ça, c'est un document, un texte légal, juridique, qui a été approuvé par 27 autres pays, qui est en voie de ratification dans les 27 autres capitales. Et voilà, ça, on ne va pas rouvrir. Mais il y a un peu de marge, il y a beaucoup de marge de manœuvre dans les termes de la relation après Brexit, proprement dit. C'est-à-dire qu'on peut envisager vraiment toutes sortes de relations. Allons d'un Brexit, on va dire, très, très, comme on dit, très doux, très soft, c'est-à-dire où l'Angleterre, la Grande-Bretagne resterait très proche de l'Union européenne, à la norvégienne, comme on dit, et où elle restait encore toujours dans l'union douanière, ou une relation beaucoup plus distante, comme celle, par exemple, du Canada, le Canada a signé
Catherine
avec.
Coron.
Je comprends pas les choses nécessairement comme ça. C'est-à-dire que pour moi, on est actuellement en période de négociation qui s'achève donc le 19 mars, enfin le 21 mars, en fonction des délais qu'on a, donc très rapidement. Et ensuite, on rentre dans une phase de transition. Donc, négociation, transition, ça veut dire que normalement, on n'est pas censé négocier après. D'autre part, j'avoue que personnellement, cette idée de hard Brexit et de soft Brexit, pour moi, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a, on est sur la base d'un accord, ce Chequers Plan, qui a été négocié, dans lequel on est rentré et pour lequel on est d'accord, sauf sur le problème du backstop, qui pose problème. Enfin, le reste...
On va revenir un peu dans les détails de ce qui coince. Mais on entend déjà, à vos analyses, que finalement, c'est tellement l'inconnu qu'on ne peut que supposer aussi ce qui se passe, enfin, voilà, de ce qui se passe dans les coulisses. En tout cas, Theresa May, Catherine Coron peut aussi surprendre. 3 jours, ça paraît très court. On ne sait pas exactement, finalement, comment elle manœuvre tout cela.
Comme on l'a dit, ça, on est d'accord pour le penser. Elle cache bien son jeu. Mmh. Au moment des négociations, c'est sa technique. Mmh. Et elle prend son temps. Donc il y a un facteur temps et il y a un facteur où finalement on ne sait pas. En revanche, il me semble que ce cadre du plan qui a été refusé par le Parlement est quand même ce sur quoi on travaille. C'est-à-dire que soit effectivement on est sur no deal, pas d'accord, ou bien s'il y a un accord, c'est celui-là aménagé. Mmh. C'est pour ça que pour moi, je le comprends de façon claire hein, et logique comme étant le hard Brexit et soft Brexit, c'était avant. Là, on était plutôt dans un accord.
Alors
donc,
finalement,
soit il y a un accord, soit il y en a pas.
Bah non,
en fait.
Ma façon de le comprendre, c'est que l'accord de sortie, c'est justement ça, c'est l'accord de sortie. Ce n'est pas un accord de destination. L'accord de destination reste à être négocié. Checkers est mort, quasiment. Il y a peut-être des éléments de l'accord de Checkers qui vont être retenus. Mais si vous regardez de près cette déclaration politique très courte hein, qui accompagne l'accord de sortie, proprement dit, toutes les possibilités sont ouvertes. Vraiment, ça laisse ouverte vraiment des deux extrêmes, soft ou hard, reste possible selon l'accord qui a été signé.
L'Europe a bien dit qu'elle ne renégocierait pas.
Non, pas l'accord de sortie, mais la déclaration politique reste complètement aménageable.
Alors, Madame Coron, Monsieur Henley, je vais vous proposer maintenant d'écouter les Britanniques, voir comment eux s'y retrouvent. Le vote du Parlement hier a fait des heureux à Londres, où se trouvait notre envoyée spéciale Anastasia Becchio. Mais vous allez l'entendre, pas pour les mêmes raisons.
Nous sommes très très contents que cet accord ait été rejeté et maintenant nous espérons obtenir un référendum pour que les Britanniques puissent voter pour rester dans l'UE, qui est notre ami, notre partenaire et notre meilleure chance dans la vie.
Maintenant, il va falloir voir ce que sera la suite. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de sortir sans accord. Depuis le premier jour, nous aurions dû dire bye bye à l'Europe. Cela aurait été plus facile et au moins, aujourd'hui, on saurait où on va.
Voilà, une dépêche donc qui nous annonce que le gouvernement britannique survit de peu à une motion de censure. Theresa May donc reste à son poste de première ministre. John Henley, ce qu'on vient d'entendre, ça montre bien hein, les divisions au sein des Britanniques. Ils n'entendent finalement pas la même chose dans toutes les décisions du Parlement. Est-ce que vous sentez toujours un intérêt très vif des Britanniques ou est-ce qu'ils commencent un peu à se lasser et à trouver finalement la situation très compliquée?
Je pense qu'elle est très compliqué, même pour ceux qui la suivent de façon quotidienne depuis 2 ans et demi et l'écrit dessus. Mmh. C'est très très dur à suivre. Et pour beaucoup de gens, oui. Il y a surtout ceux qui ont voté pour le Brexit, pour sortir, ils comprennent pas pourquoi ça prend autant de temps. Mmh. Moi, je dirais tout simple, en fait, c'est Pascal Lamy bizarrement qui l'a le mieux écrit, l'ancien commissaire européen français qui a dit quelques jours après le Brexit en gros, ça va être quand, après 46 ans d'intégration politique commerciale, juridique, sociale, etc. Le Brexit, ça va être comme essayer de sortir les œufs d'une omelette. Et c'est vraiment comme ça.
Parce que l'idée, Catherine Coron, si jamais il n'y avait pas d'accord, c'est-à-dire qu'on sortait du jour au lendemain, le Royaume-Uni sort du jour au lendemain de l'Union européenne, est-ce que ça veut dire justement un retour en arrière, un retour à la situation de 1973 finalement, ou est-ce que finalement un retour en arrière n'est même plus possible tellement le Royaume-Uni est
malheureusement dans l'histoire, on ne peut pas revenir en arrière, le contexte est différent. Et donc il y a le Royaume-Uni dépend des autres pays pour son commerce, pour son économie, et c'est pas du tout le même contexte, donc on peut pas du tout comparer. Pour moi en fait, il y a une autre chose aussi, c'est qu'en fait il y a pas de Brexit pour l'instant. Tout le monde parle, enfin mes étudiants avec qui je travaille me parlent souvent du Brexit. Je me dis, mais le
Brexit n'a pas eu lieu.
Il n'est pas encore. Excusez-moi, c'est des choses tout simples. Mais finalement, quand on y pense, pour l'instant, il n'y a pas de Brexit. Et c'est pour ça que on est en train de parler de choses qu'on ignore complètement. S'il n'y a pas d'accord, ce sera pour le Royaume-Uni. Alors, il semblerait qu'il y ait quand même des parlementaires qui envisagent d'anticiper un non-accord, on va appeler ça comme ça, ou no deal, l'absence d'accord, c'est plus français, en préparant un certain nombre de législations, parce que le Parlement, c'est quand même le pouvoir législatif britannique, on les appelle lawmakers, et donc en fait, on pourrait imaginer que d'ici décembre 2020, qui est la fin de cette période de transition, où on arrive, verrait peut-être, à ce no deal, donc en fait, l'idée c'est de gagner du temps, pour préparer éventuellement les choses, parce qu'il va falloir avoir des accords. Mais ça n'a pas marché.
No deal, ça veut dire qu'il n'y aura pas de période de transition. Il faudrait, pour déclencher la période de transition, il faut qu'un deal ou un autre soit approuvé par les deux côtés. Sinon, il n'y a pas de période de transition.
Pour parler de ce no deal, c'est-à-dire une sortie sèche du Royaume-Uni, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, le divorce est brutal, donc pas de retour en arrière parce que ça, c'est pas possible. Qui c'est qui a le plus à perdre, John Hanley? Est-ce que c'est le Royaume-Uni ou l'Union européenne?
De façon assez logique, la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, c'est un 28e de l'Union européenne. Donc, proportionnellement, évidemment. Et ça serait, je voulais dire, l'Union européenne, les 27 sont proportionnellement beaucoup plus importants économiquement que la Grande-Bretagne. Donc, ils pourraient supporter le choc bien mieux. Ça serait un choc assez dramatique. Hein. Les économistes estiment que un vrai no deal pourrait coûter jusqu'à 8% du PNB britannique sur 15 ans. Beaucoup d'entreprises font déjà leur plan de no deal. Il y en a qui délocalisent, qui déménagent à Paris, à Amsterdam, surtout les services financiers. Mais c'est pas seulement l'économie. On parle de, comme la Grande-Bretagne importe par exemple 40% de sa nourriture, ce que les Anglais mangent, et la grande majorité de ça passe par Calais ou les ports européens et la Grande-Bretagne. Dans un no deal, il y aura des contrôles douaniers, il y aura des délais. Les grands supermarchés britanniques commencent déjà à stocker les boîtes de nourriture.
Mais alors Catherine Corron, les Brexiteurs durs, comme on les appelle, ceux qui sont pour, on coupe le cordon ombilical, comment ils arrivent à justifier ce choix-là, à le vendre aux Britanniques?
Alors, disons que c'est qu'en fait, l'idée qu'on ne doit rien imposer aux Anglais, ils doivent être maîtres de leur politique intérieure, de leurs lois. L'idée, c'est que voilà, il ne faut pas dépendre de l'Europe et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont complètement dépendants. La London School of Economics a fait des études très sérieuses depuis 2 ou 3 ans et effectivement, les 8 points de PIB qu'ils perdent, sans compter que voilà, les taxes sur les produits, ça va augmenter. Enfin, ça va, ne serait-ce que la chute de la livre qui est aussi prévue. Elle est déjà très basse depuis très longtemps et ça, personne ne le dit. Enfin, il m'arrive de lire des articles où on dit que la livre, alors ça sert l'économie d'avoir une monnaie qui est effectivement basse, ça peut aider, mais arrivé à un certain moment, il faut quand même savoir que la dévaluation de la livre pendant les périodes des années 70, c'est ce qui a le plus marqué les Britanniques et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, ils ne voulaient pas rejoindre l'euro parce qu'ils ne voulaient pas dépendre, pas être coincés dans une politique qu'ils ne maîtrisent pas. Actuellement, je pense que dans toute l'Europe et dans tous les pays, on a des problèmes de coût de la vie. Et on a tendance à penser que c'est l'autre, l'étranger ailleurs, qui est là, l'Europe pour les Britanniques, qui est la cause
qui est responsable.
De tous les de tout ce qui se passe difficile.
Juste pour ajouter à ça, ils le vendent aussi, parce que je pense que c'est très important quand même. Ils vendent aussi les Brexiteurs. Ils vendent cette idée d'un Brexit très très dur, ou même un no deal Brexit, parce que un no deal Brexit ou un Brexit dur, ça veut dire sortir de l'union douanière. De l'Union européenne, et sortir de l'union douanière permet à un pays de négocier ses propres accords de libre-échange avec d'autres pays dans le monde. Et les Brexiteurs, ils aiment beaucoup, ça joue beaucoup sur la nostalgie, sur un sens de la gloire du passé britannique. Et ils disent, ce qu'ils disent en gros, c'est que on a été dans le passé un très grand pays commerçant, on peut le redevenir. Le problème, c'est que le monde, il a changé. Et nous, on était, la Grande-Bretagne n'était pas une grande puissance commerciale, elle était un grand empire. Si les autres pays dans le monde ne voulaient pas faire du commerce avec nous, on envoyait les bateaux, on envoyait les soldats.
On comprend mieux pourquoi finalement Theresa May tient tant à un accord, justement pour éviter toutes les conséquences que vous nous avez listées. La date butoir, c'est le 29 mars. De plus en plus, on imagine, enfin le projet, c'est peut-être de repousser cette date. Mais Catherine Coron, repousser cette date pour faire quoi? Là aussi, c'est toujours dans l'idée d'essayer de négocier, de ne pas claquer la porte.
Oui, je pense que on peut aussi imaginer que Theresa May négocie avec la pression qu'elle a politique à aller voir les Européens et leur disent, écoutez, voilà, j'ai besoin de plus de temps parce qu'elle pourrait aussi refaire voter le plan. C'est possible deux ou trois fois, si vous voulez, compte tenu de la constitution britannique et de la façon dont elle fonctionne, elle pourrait très bien représenter le même plan légèrement amendé, ou le même d'ailleurs tout court, parce que en fait, et elle pourrait très bien, à mon avis, c'est une des possibilités.
C'est ce qu'il va falloir qu'elle fasse, en fait. Il y a qu'une seule, il y a plusieurs voies possibles, mais il y a qu'un chemin qui mène vers ces différentes solutions. Le seul chemin possible, c'est que le Parlement britannique, et non pas le gouvernement, mais le Parlement britannique, arrive à trouver une solution sur laquelle il y aura une majorité dans la Chambre des communes. Pour la bonne et simple raison que
l'Europe... Et tout est obligé de passer par le Parlement, parce qu'il y a un autre scénario que les Français, dont les Français se souviennent. Theresa May ou le gouvernement britannique pourrait s'asseoir finalement sur ce référendum en disant on n'est pas arrivé à obtenir une majorité sur un accord, il ne peut pas y avoir de Brexit, on va finalement effacer l'ardoise du référendum. Catherine Coron, est-ce que au Royaume-Uni c'est possible ça? D'aller au-delà...
C'est techniquement possible, mais au Royaume-Uni, le Parlement est souverain, normalement. Alors, et c'est vrai que jusqu'à présent, Theresa May a eu tendance à faire les négociations sans en référer au Parlement. La question qu'on pourrait se poser, c'est si elle annonçait avant et qu'elle présentait le plan et qu'ensuite elle allait voir les Européens, ce qu'elle n'a pas choisi de faire, si ça pouvait marcher. Donc là, le Parlement, en votant contre son plan, a montré qu'il avait le pouvoir, en quelque sorte. Est-ce que c'est le cas? Il est effectivement souverain. Après, demander un délai, puisque c'était la question que vous m'avez posée, vaut la peine si elle peut réussir à trouver une majorité sur un consensus possible. Et à mon avis, il faudrait qu'elle commence chez elle. Et à ce moment-là, elle peut aller voir les Européens en leur disant, écoutez, voilà, je pense que là, j'ai trouvé l'accord. Je suis...
Et finalement, est-ce que vous êtes d'accord pour notre accord?
Voilà, les Européens vont rien donner jusqu'à ce qu'ils aient la confiance que c'est un accord qui va être accepté par le Parlement britannique.
En tout cas, donc, c'était l'information du jour aussi. Le gouvernement britannique qui survit donc un peu de peu à une motion de censure. Je vais regarder si on a les résultats. Les députés britanniques ont rejeté donc mercredi soir par 325 voix contre 306 la motion de défiance. C'est pas passé loin, mais Theresa May reste la première ministre du Royaume-Uni. Merci beaucoup à vous deux. Catherine Coron, enseignante-chercheure à Paris. John Henley, correspondant pour The Guardian. Et merci à toute l'équipe des décryptages. Éléonore Krenik, Eugénie Ducré, Charles Barré et Claude Battista.